Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Des températures de 30 degrés, comme un parfum de canicule avant l'heure. Mais surtout une sécheresse hors norme qui inquiète à l'approche de l'été. L'Info C'est Clair est intitulé « Chaleur, sécheresse, comment vivre avec ?» Nos invités, Émilie Torgemène, vous êtes reporter environnement au Parisien aujourd'hui en France, à lire ce matin votre article dans le Parisien. Printemps très chaud, été radieux avec un point d'interrogation, bah vous nous répondrez. Nicolas Châteauneuf, journaliste et sciences environnement à France Télévisions. Frédéric Danhé, journaliste spécialiste des questions environnementales. Je rappelle votre livre, Un rencontre avec des écolos remarquables. C'est chez Delachaux Niesley. Merci de participer à cette émission en direct. Donc 30 degrés hier à Bordeaux, 30 degrés sont à nouveau attendus aujourd'hui à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, des températures qui montent vite et fort. Et la semaine prochaine, on nous annonce plus de 30 degrés. Sujet de Margot Subra-Gomez et Dominique Bonnet.
Une semaine franchement estivale, alors que le mois de mai vient juste de débuter. Partout en France, le thermomètre s'affole. Entre 22 et 27 degrés, et même 30 degrés localement. Alors pourquoi de telles températures ? Une dépression au-dessus de l'Atlantique pousse l'air chaud venu du Maghreb et d'Espagne vers l'Europe centrale. Il stagne donc actuellement sur la France, un phénomène que les experts appellent la dorsale anticyclonique et qui provoque des températures 5 degrés au-dessus des normales de saison. Pour autant, peut-on parler d'une canicule ? Non, selon les météorologues, car la canicule répond à des critères très précis. Les températures la nuit doivent rester élevées, ce n'est pas le cas en ce moment.
Il nous faut des températures le matin comme l'après-midi, supérieures pendant 3 jours à des seuils qui sont définis par Météo France, en général entre 32 et 36 degrés suivant les départements, et des minimales au-dessus des 20 degrés. Donc ce n'est pas du tout la situation que nous connaissons actuellement.
Le phénomène est-il historique ? Cette année, ce qui inquiète les experts, c'est la possible durée de ces températures élevées. Mais d'autres mois de mai dans l'histoire ont été aussi chauds, voire plus. 30 degrés à Strasbourg en 1998 et en 1976, juste avant l'été de la grande sécheresse, le thermomètre affiche 29 degrés à Rouen. Cette fois, les températures devraient chuter jeudi et vendredi avant de repartir de plus belle à la hausse à partir du week-end prochain.
Frédéric Danhé, avant on parlait du beau temps, maintenant on est comme fatigué d'avance par cette vague de chaleur, on se dit qu'est-ce qui va nous tomber dessus en juin-juillet ? C'est anxiogène.
Ouais, c'est anxiogène. On a l'impression que qu'il n'y a plus d'hiver, que l'été est permanent. On a l'impression que le printemps, il dure un mois et encore. Bah oui, c'est sans doute lié au changement climatique. Il fait de plus en plus beau, plus précocement. Il fait de plus en plus chaud, plus vite et plus longtemps. Alors là, c'est pas forcément exceptionnel. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est l'impact sur les plantes. Là, ça arrive au moment où les cultures sortent, où les arbres commencent à bourgeonner et ensuite sont censés faire leurs fruits, qui ont déjà subi d'ailleurs le gel. On était venu en parler ici sur ce plateau et maintenant ils subissent une situation de stress hydrique. Une plante, le blé par exemple, qui est en train de pousser, s'il considère qu'il a trop de lumière et pas assez d'eau, il va flétrir, il va se mettre en position de défense. Il va être tout rabougri et donc forcément, il ne va pas fabriquer de la biomasse, il ne va pas fabriquer de la matière vivante dont on a besoin. En fait, l'inquiétude, elle est là. De là à dire qu'il y aura une canicule cet été, on n'en sait strictement rien.
Alors justement, Émilie Torgemène, est-ce qu'il faut voir arriver l'été avec angoisse ? Le dernier record, c'était 2019. Le 28 juin, on avait fait 46 degrés dans l'Hérault.
Oui, à Vérargues. La réponse a déjà été donnée. On n'en sait strictement rien. Alors ce qui est notable dans cet épisode de chaleur-là, qui n'est pas forcément très anxiogène pour ceux qui aiment les terrasses. Tout dépend un peu de ce qu'on veut y voir. Mais ce qui est très notable, c'est qu'il est très tôt. Donc entre maintenant et le mois de juillet et d'août, en fait, la situation météorologique qui a été décrite avec ce dôme de chaleur, la dorsale, elle va avoir le temps de changer 10-20 fois en réalité. Donc on ne peut strictement pas prévoir ce qui va se passer en juin, juillet, août pour nos canicules. Par contre, ce qui a été prévu par Météo France, on fait des tendances saisonnières. Donc, c'est des modèles qui intègrent beaucoup plus d'informations. Par contre, on prévoit que l'été, en tout cas les 3 prochains mois, donc mai, juin, juillet, donc pas pour le mois d'août, pourrait être, il y a 50% de chances que ces 3 mois soient plus chauds et plus secs que la normale. Donc, Voilà, c'est possible. On l'avait aussi dit l'année dernière et ça ne s'était pas produit. Donc voilà, tout, on peut rester encore un peu prudent.
Oui, mais Nicolas Châteauneuf, on a quand même l'impression, pardon, mais qu'on fait de plus en plus d'émissions sur le climat et on les fait à chaque fois à l'occasion d'événements extrêmes. Et on a l'impression que ça s'emballe, qu'il y en a de plus en plus. Et si on ne s'habitue pas, c'est parce qu'à chaque fois, le record précédent est battu, on a l'impression.
C'est vraiment une caractéristique du réchauffement climatique. C'est qu'en fait, comme on a de plus en plus de recul, regardez, moi j'ai 47 ans aujourd'hui, donc je vois, je donne un secret, il ne faut pas le répéter. J'ai un peu plus de recul, je vois très bien que les étés d'aujourd'hui sont un peu différents de ceux de mon enfance. Et je pense que les gens qui sont plus âgés le voient également. Regardez, vous l'avez dit, cette séquence chaude qui arrive, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle arrive, ça arrive de plus en plus fréquemment. Le dernier mois de mai le plus chaud, c'était en 2011, il n'y a pas très 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 longtemps. Et à chaque fois, on sait, par exemple, là, le Met Office vient de publier des prévisions pour les années suivantes, en tout cas des essais de simulation, et il y a 95% de chances que les années les plus chaudes soient dans les 10 prochaines années. Vous voyez, donc on sait de toute façon qu'on va, avec l'augmentation des gaz à effet de serre, on sait qu'on va aussi vers des températures qui vont être de plus en plus chaudes.
Émilie Torgemène, on nous dit qu'il faut agir pour le climat. Est-ce que la meilleure façon, malheureusement, d'agir, ça va être ce week-end, tiens, d'aller acheter un ventilateur, voire de se faire installer la clim? Est-ce que c'est pas ça la réaction qu'on a tous d'ailleurs comme aux États-Unis où tout le monde a la clim? Les voitures sont climatisées, elles ne l'étaient pas quand on était petit.
Non, surtout pas. La climatisation, les ventilateurs, c'est de l'énergie consommée en plus, donc c'est alimenter la machine en réalité. Donc non, surtout pas de climatiseur. On touche la barre symbolique des 30 degrés. C'est chaud en France, mais ce n'est pas catastrophique. Et comme on le disait, ce n'est pas une canicule. Le soir, on va redescendre. Donc, on n'est pas en situation de danger. Par contre, juste pour rebondir, effectivement, on voit bien là que le réchauffement climatique est à l'œuvre, puisque le premier jour de chaleur en France, calculé par Météo France, c'était le 9 mai. Donc, c'est relativement tôt dans l'année par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Donc, ça arrivait 3 semaines avant, il y a 30 ans, globalement, en moyenne. Et là, c'est déjà maintenant le premier jour de chaleur, le 9 mai. Donc oui, on voit qu'en fait, l'été commence plus tôt en quelque sorte.
Frédéric Dan, et la semaine prochaine, il y a Roland-Garros, il va faire plus de 30 degrés. On imagine les gouttes de sueur dans la cuvette de Roland-Garros. Est-ce qu'il y a aussi, j'étais en Angleterre, il parle de réensauvager les centres-villes. C'est vrai que nos villes sont... On a mis des dalles de béton dans de grandes places, là, majestueuses, sans un arbre. On va voir une photo. Est-ce que ce n'est pas ça qui ne va plus aussi? C'est que nos villes sont devenues étouffantes. À la limite, à la campagne, on a un peu d'air frais sous le platane.
Ben, vous avez tout dit. Nos villes fabriquent leur propre chaleur. C'est ce qui s'appelle l'effet îlot de chaleur urbaine.
Alors, on va voir la dalle de béton. Ça, typiquement, c'est une erreur. Il va falloir les enlever.
C'est
à Nice, ça.
En fait, c'est une erreur pour deux raisons. La première, c'est que ça emmagasine la chaleur pendant la journée. Du coup, quand vous marchez dessus, vous avez les pieds qui brûlent. Et puis le soir, ça rayonne parce que ça doit se refroidir. Et du coup, les soirs dans les villes ne sont jamais frais. Raison pour laquelle, en 2003, les gens à Paris sont morts surtout la nuit, parce que la nuit, la température n'arrivait pas à redescendre, parce que la nuit, la ville, Paris, une ville minérale, rayonne en permanence de la chaleur, donc crée sa propre chaleur. La réponse, elle est simple et elle est liée aussi à l'eau. C'est-à-dire que si on veut à la fois emmagasiner de l'eau et puis faire de l'ombre en ville et rafraîchir l'air, il faut des plantes, donc des sols ouverts, y compris en ville, et on le voit en ville, de plus en plus de villes, j'étais à Lyon il n'y a pas longtemps, on en parle beaucoup, ouvrent la chaussée, ouvrent la voirie pour laisser le sol libre, le végétaliser, le planter d'arbres, il y a Gennevilliers qui est en train de le faire, pour créer de la fraîcheur et pour emmagasiner la moindre pluie qui tombe.
Nicolas Châteauneuf, pour bien faire, il faudrait l'architecture de Marseille ou de la Ciotat à Paris. En fait, le climat des villes méditerranéennes est en train de s'inviter dans le nord.
Il y a une étude qui vient de paraître. Ce sont des chercheurs suisses qui ont simulé le climat en 2050. Et pour vous donner un exemple, on prévoit que le climat à Londres soit celui de Madrid aujourd'hui, en 2050.
Sauf que les villes ne sont pas conçues pareil.
Dans un scénario qui n'est pas le plus pessimiste. Hein. Et par exemple, Paris, ça ressemblera un peu plus à celui qu'on voit par exemple à Canberra, par exemple
en Australie,
vous voyez. Donc il faut bien imaginer qu'il va avoir un travail d'adaptation phénoménal.
Déjà aujourd'hui, ben, moi je me souviens, j'étais à Paris hein, quand il faisait 46 degrés, 47 degrés. C'est assez invivable. Donc il va falloir végétaliser, il va falloir enlever toutes les surfaces sombres. Vous savez, le bitume bien sombre qui capte la chaleur, etc. Les pierres, c'est assez fascinant de voir tous ces bâtiments qui captent la chaleur, qui résistent pendant un certain temps avec l'inertie thermique et puis qui, à un moment donné, la chaleur est là et c'est, l'effet est inverse. C'est-à-dire qu'après, pour qu'ils refroidissent, ça met du temps. Et c'est vrai qu'il va falloir vraiment repenser toutes nos villes.
Alors, cette vague de chaleur intervient tôt dans l'année. Nous sommes au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois des allergies parce que les plantes sont en fleurs et donc il y a le pollen qui s'échappe. Est-ce que l'un aggrave l'autre? Est-ce que la chaleur aggrave ce phénomène d'allergie au pollen? En tous les cas, nous sommes nombreux à avoir des problèmes d'allergie au pollen. Nous sommes de plus en plus nombreux, même visiblement en France. Vous voyez ce sujet d'Alexis Jacquet.
Pique-nique printanier. Temps doux et ensoleillé. Un paradis pour les Parisiens, mais un enfer pour les allergiques.
Les yeux qui piquent énormément, où on frotte à tel point que vraiment c'est hyper inconfortable.
Ça pique tout le temps, ça gratte, c'est pas du tout agréable.
Ça finit un peu des fois aussi par prendre un peu la gorge. Et voilà, ce qui n'est pas toujours très sympa, surtout quand on se met à tousser en période de Covid, hein, c'est un peu, on passe vite pour un pestiféré.
Le coupable, le voici. Le pollen en suspension dans les airs. Dans cette pharmacie, on se bouscule pour acheter des antihistaminiques.
Ça pourrait représenter, un jour comme aujourd'hui, comme 50% de notre clientèle.
Donc si ça fait des boutons, ça veut dire que je suis allergique.
Chez les allergologues aussi, les consultations se multiplient. Un enfant sur cinq et près d'un tiers des adultes seraient allergiques au pollen.
En visioconférence, on retrouve le docteur Niam Famti. Bonjour docteur.
Bonjour à tous.
Vous êtes allergologue, pneumologue et pédiatre à Paris. Quels sont les symptômes d'ailleurs de ces allergies? On tousse, on a la gorge qui gratte, on ronfle la nuit. Est-ce que d'ailleurs il y a des allergiques qui s'ignorent, qui ne savent pas qu'en fait ils sont tout simplement allergiques au pollen?
Oui, ça arrive, notamment quand c'est la première fois que ça vous arrive. Et ben vous pensez que c'est un rhume, c'est-à-dire que vous avez le nez pris. Le nez qui coule, les éternuements, donc rien ne ressemble plus à un rhume qu'une crise d'allergie. Cependant, la crise d'allergie, elle va se prolonger. Vous n'avez pas forcément de fièvre et vous allez avoir des symptômes qui sont un peu différents qu'à l'accoutumée. Vous pouvez même être fatigué et ça revient. C'est-à-dire que c'est violent et ça revient et c'est de pire en pire chaque année. Donc là, vous posez des questions. Vous dites, voilà, c'est quand même dépendant de la saison, et c'est quand même assez étonnant de tomber malade, entre guillemets, en plein printemps et là, en pleine chaleur.
Pourquoi est-ce que la chaleur aggrave le phénomène d'allergie, d'allergie au pollen?
Donc il y a un phénomène d'exposition, hein, forcément, on est plus dehors, on essaye de profiter de l'atmosphère, de la nature. Il y a aussi des conditions météorologiques, bien sûr les plantes vont arroser l'atmosphère de ces particules microscopiques. S'il ne pleut pas, s'il fait chaud, sec, il n'y a pas trop de vent, donc là c'est vraiment l'enfer parce que les particules restent en suspension et totalement disponibles pour être inhalées, et aussi ça va se déposer sur les muqueuses des yeux, donc on va avoir des signes de conjonctivite aussi, c'est pour ça qu'on parle de rhino-conjonctivite, et puis ça va aller très loin dans les voies respiratoires, on a des signes dans la gorge et on peut avoir aussi éventuellement de l'asthme, ça peut faire tousser, on peut avoir une gêne respiratoire et c'est là où c'est dangereux.
Vous dites c'est l'enfer, est-ce qu'il y en a de plus en plus d'allergiques? Est-ce que les allergies sont de plus en plus graves ou est-ce que simplement on est devenu beaucoup plus chochotte qu'avant? Avant on avait un rhume des foins et on disait c'est pas grave, mouche-toi et file droit.
Alors il y a plusieurs phénomènes. Effectivement dans le monde entier on voit qu'il y a une augmentation du nombre des cas. On cite très classiquement les projections de l'OMS, vers 2050, on aura peut-être la moitié de la population qui sera sensible. On a aussi une augmentation de la gravité des cas, c'est-à-dire que c'est de plus en plus tôt dans notre pratique. Les enfants allergiques, par exemple, on les voyait qu'à partir de 5-6 ans, et maintenant, on les voit dès l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans, donc ils sont vraiment tout petits et ils commencent à avoir des signes de rhinite allergique. Après, on a des adultes qui ont commencé leur saison, leur carrière d'allergique, là, depuis l'année dernière ou l'année d'avant. Est-ce que l'épidémie du Covid a joué un rôle? On se pose une question, pas directement, mais indirectement peut-être. En tout cas, on voit une augmentation des cas et de la sévérité, un recul de l'âge, ou bien une avancée aussi. C'est-à-dire que là, on a les petits-enfants qui viennent avec leurs grands-parents en consultation parce qu'eux aussi sont gênés.
Alors, sans aller jusqu'à la consultation pour des allergiques légers, mais quand même qui sont embarrassés, qui dorment mal la nuit, c'est mon cas. Est-ce que vous avez 2-3 conseils là, pour mieux traverser cette période d'allergie qui va se terminer, hein? Fin mai, c'est terminé.
Alors, OK, on fera une consultation plus tard, mais effectivement, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Déjà, on surveille sur les calendriers, sur le site pollen.fr, on regarde un petit peu les pics de pollen. S'ils sont associés à des pics de pollution en milieu urbain, il faut faire attention parce que l'accumulation des deux peut être négative. Prendre des médicaments. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Ce qui fonctionne bien, c'est d'essayer d'enlever le pollen au niveau du nez, des yeux. Donc, il faut laver ces surfaces, les rincer avec des gouttes pour les colir, pour les yeux, des gouttes pour le nez pour enlever le pollen le soir, se rincer. Donc ça commence par un traitement local. Ça, c'est très important de se débarrasser du pollen. Mettre des sprays décongestionnants. Et puis après, on va éventuellement traiter les bronches si on a des problèmes respiratoires. Si on, par exemple, fait de l'asthme, il faut absolument ne pas lâcher son traitement de fond, prendre ce qu'il faut. Et puis, on va adapter ses activités. Alors, il y a différentes choses. On a remarqué, par exemple, que le fait de porter le masque, pouvait servir de filtre, en fait, à diminuer l'absorption de pollen dans les voies respiratoires. Donc ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement jouer. Et puis après, il faut faire un diagnostic, faire des tests, et puis éventuellement se lancer dans une désensibilisation naturelle avec le pollen qui concerne l'allergie pour diminuer notre réactivité anormale. C'est le corps se révolte de manière très anormale et éviter qu'il programme ça pour que ça soit quelque chose d'immuable dans l'avenir. Il faut casser ce cycle-là.
Merci beaucoup, docteur Niam Femti. Donc, je rappelle, allergologue, pneumologue, pédiatre à Paris, merci. Frédéric Danhé, le docteur le disait à l'instant, en zone urbaine, on a l'impression qu'en plus des allergies, non, mais il y a la pollution qui vient s'ajouter à cela, ces fameux pics d'ozone, tout ça, ça fait un chaleur plus pollution, ça fait un cocktail.
Chaleur. Alors déjà, en ville, vous avez des voitures. Les voitures, 50% de l'énergie contenue, l'énergie potentielle dans un litre d'essence, est balancée en chaleur. Donc la chaleur augmente encore avec la circulation automobile, dont les gaz d'échappement se recomposent à cause de la chaleur. Ils vont se recomposer également chimiquement, donc réaction chimique, dans la basse atmosphère avec l'ozone, dont la fabrication est augmentée par la chaleur dans la basse atmosphère. Et d'ailleurs, ça aussi agit sur les plantes qui stressent, et en stressant, elles émettent des molécules qui participent aussi de l'allergénicité, laquelle augmente parce que, comme le réchauffement climatique est là, les plantes démarrent plus tôt. Et donc, la saison allergène démarre plus tôt. Donc, effectivement, on a un joli cocktail pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires ou des allergies en ville. Et cocktail, et là on se heurte à un mur. Que faire? Il faut rafraîchir l'air, donc planter des plantes, mais des plantes qui seront de toute façon, qui vont augmenter de toute façon le risque allergène. Et d'autant plus qu'il faut des plantes qui portent plein de fleurs pour attirer les abeilles, faire la biodiversité. Tout ça.
On n'a pas fini de se moucher.
Voilà.
Alors, il fait beau et il ne pleut pas. C'est l'autre versant de des moments très difficiles que nous vivons sur le plan climatique. Et cette chaleur ne fait qu'aggraver la sécheresse. Dans certaines communes, il est maintenant interdit de laver sa voiture, d'arroser les plantes, de remplir les piscines avant 19h. Vous voyez ce reportage dans le Var de Théo Souman et Pierre-Jean Perrin.
Saint-Zacharie, le village aux 16 fontaines, n'en compte plus une seule en eau depuis 3 semaines. L'Uvonne, la rivière qui le traverse, n'en est plus une. Quelques flaques éparses. Quant à la cascade du Tombereau, en plein cœur de la commune, elle est totalement à sec.
Ce ne sont pas les chutes du Niagara, mais presque.
J'ai jamais vu à sec comme ça, non. C'est la première fois. Non. La rivière avait de l'eau, avait toujours de l'eau jusqu'à présent. Est-ce que c'est dû aussi au réchauffement climatique? Probablement.
En temps normal, la rivière permet d'arroser ses jardins partagés. La préfecture du Var vient de placer la commune en alerte sécheresse renforcée. Le troisième niveau d'alerte sur 4. Désormais interdit d'arroser potager, pelouse ou massif, entre 9h et 19h.
Ben, la sécheresse précoce, plus on ira dans le temps, plus ça s'aggravera.
Ça vous inquiète, vous ?
Oui.
Interdit aussi le lavage des véhicules en dehors des stations, ou encore le remplissage des piscines. Cet habitant a rempli la sienne juste avant les restrictions.
Mais moi, en ce qui concerne l'arrosage, je n'aurai pas, parce que je mets du synthétique. Mais la piscine, ça va être dur de s'en passer. Très, très dur.
Il y a 700 piscines à Saint-Zacharie. Le maire n'aura pas les moyens pour toutes les contrôler, mais il compte sur le civisme des habitants.
On va communiquer, on va sensibiliser les gens sur ce manque d'eau qui est vraiment une réalité maintenant. Il faudrait qu'il pleuve comme il a plu hier, je dirais un mois sans arrêt, quoi, pour que ça remonte un petit peu.
Comme le Var, 15 départements comportent des zones en vigilance sécheresse. Certaines ont même déjà atteint le quatrième et dernier niveau, l'état de crise.
Alors Émilie Torgemène, là aussi, va falloir changer nos habitudes. Les piscines, on va être mal vu maintenant, celui qui a une piscine, parce qu'on se doute bien qu'on les remplit en douce, malgré l'arrêté préfectoral.
Oui, on va être mal vu, puis il va y avoir des contrôles. Oui, il va falloir sérieusement changer nos habitudes sur l'eau. Là, la question est très pressante cette année, puisqu'en fait, l'épisode de chaleur arrive après un début d'année excessivement sec. Ça veut dire qu'en gros, les réserves ne se sont pas reconstituées pendant l'hiver comme elles auraient dû. C'est la quatrième année la plus sèche depuis les années 50 à peu près, sur ce début d'année. Donc là, ça devient très sensible, la question de l'eau. Donc on parlait des piscines. Laver sa voiture, ça va être mal vu aussi.
On commence l'été avec le réservoir à sec, c'est un peu ce que vous nous dites.
Oui, là, il n'y a plus grand-chose dans nos réservoirs naturels. Donc là, ça devient très inquiétant. Les agriculteurs vont avoir aussi des restrictions. On va pas pouvoir, toutes les cultures ne vont pas pouvoir être irriguées. Il y a un quota qui va être attribué selon les départements. Là, on a vu que 15 départements étaient en vigilance sécheresse. Ouais. Donc oui, il va falloir changer nos habitudes. Ça, c'est une question qui va être très sensible dès cette année et puis de plus en plus sensible dans les années à venir. Ouais.
Nicolas Châteauneuf, mais est-ce que c'est la faute à pas de chance, le fait qu'il ait peu plu, ou est-ce que c'est lié au réchauffement climatique? Est-ce que le réchauffement de la température fait que, eh bien, il y a moins d'eau qui va nous tomber du ciel, parce qu'on ne voit pas le... D'ailleurs, il y a l'été dernier, on se souvient que la Belgique, malheureusement, avait connu de fortes pluies qui ont même fait des inondations. Mais
là, par exemple, on est à moins 35% depuis à peu près le 1er janvier par rapport à la période de référence qui est 80-2000-2010. Et c'est quand même très important. Ça intervient en plus après la période de recharge qui est normalement l'hiver et l'automne.
Parce que les pluies d'hiver remplissent les nappes.
Oui, parce que vous n'avez pas la végétation qui capte tout l'eau.
Alors qu'au printemps, l'eau, elle sert pour faire le gazon.
Elle n'a pas du tout été efficace et donc, comme tu dis, on arrive pratiquement au printemps et à l'été avec sans aucune réserve. Sur les précipitations, pour le réchauffement climatique, c'est très difficile. Les prévisions les simulations ne sont pas très nettes. Globalement, on n'est pas certain d'avoir moins de précipitations, mais par contre, la distribution dans l'année et par rapport à la géographie va sans doute changer. C'est-à-dire qu'on va avoir des précipitations sans doute... Exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir une distribution qui sera moins étale et aussi avec des disparités régionales très importantes. Vous aurez sans doute plus d'épisodes de sécheresse dans le sud-est et dans l'est de la France, par exemple, qu'à l'ouest. Et vous aurez des sécheresses beaucoup plus importantes également sur le pourtour méditerranéen. On pense que le pourtour méditerranéen va s'aridifier de manière assez importante avec aussi des changements de végétation. Par exemple, les arbres, le hêtre, par exemple, va disparaître. Il y a des hêtres en Normandie aujourd'hui. Dans les 100 prochaines années, le hêtre va migrer, peut-être même hors de la France, vers l'Est et le Nord-Est. Donc, ça va avoir des impacts sur la culture, sur les cultures. Ça a déjà des impacts sur le blé, puisque le rendement du blé, par exemple, ou du maïs, va sans doute baisser. On note déjà des petites baisses de rendement. Sur le riz également, on sait que la densité de protéines, la concentration de protéines dans le riz peut aussi baisser à cause du réchauffement. Donc oui, il y a aussi un travail d'adaptation à faire sur nos pratiques agricoles.
Pratiques agricoles, Frédéric Dans, la France, grand exportateur de céréales, la France, grand exportateur de vin aussi, le vin français qui est réputé dans le monde entier. Ces points forts vont être challengés par le réchauffement climatique.
Ils le sont déjà, mais on voit que de plus en plus, l'agriculture, mais comme les villes, j'en ai parlé tout à l'heure, vont devoir dépendre des sols. Les sols qu'on a complètement oubliés pendant des années parce qu'on a imaginé qu'on pouvait faire produire n'importe quoi, n'importe quel sol, avec un coup de charrue, des pesticides et des engrais. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le meilleur des puits de carbone est aussi la meilleure des fontaines à eau. C'est un sol
peut travailler, couvert en permanence, peut labourer, c'est-à-dire un sol riche, un sol vivant. Plus il y a de matière organique dans un sol, plus le sol aura une capacité à retenir du carbone et à retenir de l'eau. Et ces sols-là, c'est typiquement les sols de prairies, les sols de forêt, mais surtout les sols de prairies. Et puis les sols dits conservés, c'est-à-dire très très peu labourés. Il n'y a rien de pire que le labour pour détruire la matière organique des sols. Et des sols souvent couverts en permanence, c'est-à-dire qu'entre le blé et l'orge, par exemple, eh ben, on aura une couverture avec du trèfle, avec du tournesol, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle donc la conservation des sols.
Donc les grandes parcelles de monoculture, là, avec des pertes de vue.
Si, ce serait encore possible si entre cette première culture et la deuxième, il y avait ce qu'on appelle dans l'assolement, dans la rotation des cultures, une culture qui vient couvrir le sol de façon à ce que le sol ne perde pas sa matière organique à cause du gel, à cause de du soleil, etc. Ça, c'est en train d'arriver progressivement. Plus les haies, plus réduire la taille des parcelles pour réduire l'érosion. L'élément fondamental, une des clés de notre adaptation au changement climatique, ce sera les sols, et y compris en ville, et j'insiste dessus, il y a de plus en plus de villes qui ouvrent leur sol et qui font un peu la même chose parce que bah, il n'y a pas mieux pour absorber l'eau de pluie et éviter que les réseaux d'eau pluviale ne saturent à la première pluie brutale. Et les sols sont devenus tellement importants qu'il y a une chercheuse française qui s'appelle Claire Chenu qui travaille à la Commission européenne pour établir un certain nombre d'indicateurs de qualité des qualités des sols sur lesquels demain seront adossés les subventions agricoles et peut-être les prix de vente du foncier agricole.
Alors, cette sécheresse remet en cause notre agriculture. Elle remet aussi en cause notre habitat, puisque avec la sécheresse du sol, de plus en plus, des fissures apparaissent qui rendent des maisons parfois familiales, centenaires, inhabitables. Regardez ce sujet qui fait froid dans le dos de Denis Sébastien et Thierry Germain.
Depuis quelques années, il vit dans l'angoisse des périodes de sécheresse.
Donc voici une lézarde apparue en 2018, après l'été, suite à la sécheresse. Donc on a un risque de péril si cette façade s'effondre avec le toit qui va suivre. Et là, ça peut être catastrophique.
Cette maison de famille a pourtant traversé plusieurs siècles sans jamais connaître pareil sinistre. À l'intérieur, dans les pièces, désormais, les fissures se multiplient. Elles laissent même parfois apparaître largement le jour, comme ici au grenier.
Donc voici les fissures, la lézarde de l'intérieur. Et comme vous voyez, on passe aisément le bras. Chaque jour, on revient en se disant, est-ce que la maison sera par terre ou pas ?
Comme plusieurs sinistrés, le propriétaire est soutenu par une association qui lui a conseillé de faire réaliser une étude du sol. Elle conclut à la présence de couches argileuses sous les fondations.
Quand il pleut, l'argile va se gorger d'eau, donc ce qui fait qu'elle va gonfler. Et ensuite, quand il y a de la sécheresse, quand il y a de l'évaporation de cette eau, l'argile va se rétracter, à l'instar d'une éponge. Et donc, la maison va s'affaisser puisqu'elle ne sera plus portée par le terrain.
Dans la région, ce sont des centaines de maisons qui sont concernées, anciennes et même plus récentes, comme celle de ce couple construite il y a 30 ans. Là aussi, tout a commencé en 2018.
Donc, les premières fissures qu'on a vues, c'était là en bas. Là, on a fait mettre des témoins. On a le pilier, là, entre les deux, qui est cassé. Il est cassé là. La terrasse ici, qui est sur fondation, ben, elle s'est écroulée.
Même diagnostic, le sol est argileux. Le couple âgé souhaiterait acheter un logement plus adapté, mais se retrouve coincé.
On ne peut pas vendre. C'est invendable. On ne peut pas proposer une maison comme ça. Même si on la donnait, personne ne la prendrait, je crois.
Des travaux de confortement sont possibles, mais coûteux. Ils ont été évalués à 150 000 euros. Souvent, les sinistrés sont dans l'attente d'une éventuelle prise en charge par leur assurance et regardent impuissants les dégâts s'aggraver au fil des épisodes de sécheresse.
Émilie Torgeman, c'est terrible, ça, c'est parce que ce sont les économies d'une vie, c'est votre retraite qui se retrouve. Cette dame, elle est prisonnière de... Quand on achète, en fait, il faut faire très attention maintenant... à comment le climat va changer votre habitat avec la montée des eaux, la nature du sol, la température qu'il y fera dans 10 ou 20 ans.
Et oui, ben, il va falloir aussi s'intéresser, alors on ne va pas regarder que si le quartier est sympa, il va aussi falloir s'intéresser aux conditions climatiques. Alors vous disiez montée des eaux, les zones inondables, effectivement quand on achète une maison, on regarde si on est proche d'une rivière, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années, les crues centennales, décennales qui vont s'accélérer, donc peut-être qu'on y réfléchit. Les gens
a-t-on le réflexe, parce que pour l'instant on dit « oh c'est sympa, je suis en bord de mer
ben, ». Je ne sais pas, je ne suis pas dans ce cas-là, mais on peut donner ce conseil à ceux qui nous regardent.
De
attention donc, au risque d'inondation. Le sujet des sols argileux est très important. Donc le ministère de la Transition écologique s'en est emparé. Peut-être que les assureurs vont rembourser ces gens. C'est pas tout à fait gagné. Mais oui, il va
les
falloir
aussi regarder. Les assurances, ce sont des poches. Elles peuvent tout payer, les assurances?
Bah, à force, ça va commencer à être très coûteux. Oui, il y a des calculs qui avaient été faits. Je ne vais pas dire de chiffres. Je ne suis plus exactement...
Mais sûrement qu'il faudra augmenter la part qu'on appelle...
Les primes d'assurance habitation vont nécessairement augmenter. Tous les assureurs le disent. L'assurance... pour les aléas climatiques et coûte de plus en plus cher. Et ça, forcément, c'est toutes nos primes d'assurance qui le payent. Donc, on disait juste inondation, les sols argileux. Et puis, il va falloir aussi faire très attention. Je parlais des crues, mais aussi aux inondations. Les gens qui avaient acheté de très belles villas dans la vallée de la Vésubie ou ces choses-là, forcément, ils ont été emportés. Il faut aussi regarder ces choses-là. Donc oui, quand on achète... on parle au maire, on parle à son notaire et on regarde un petit peu ce qui s'est passé auparavant.
Nicolas Châteauneuf, c'est terrible parce qu'une fissure, alors maintenant on la regarde en disant « Oh là là, bah voilà, ça y est, c'est ma maison qui a une maladie quoi, et qui ne s'en remettra pas. »
Oui, puis je pense que c'est ce genre de phénomène qu'on va voir sans doute se répéter. Il y a une question de sol également, mais... je prenais l'exemple parisien, par exemple, non pas que je sois centré sur la capitale, mais vous voyez, on a ici des bâtis qui ont 200 ans, souvent, par exemple, les bâtiments haussmanniens, etc., avec des températures qui n'ont jamais été vraiment ressenties à ce point-là. Je pense qu'on pourrait très bien avoir, dans les prochaines décennies, des problèmes similaires ici, par exemple. Donc, c'est l'intégration du risque climatique et de l'aléa climatique dans l'assurance des biens, c'est aussi primordial. Et c'est évident que là, quand on voit la multiplication des phénomènes extrêmes dans le monde, quand vous voyez, par exemple, des villages entiers qui sont détruits par les flammes au Canada en quelques jours, ou en Sibérie ou ailleurs, etc., évidemment, ce risque climatique, il est intégré dans les primes que vous payez. Et les assureurs ne vont plus pouvoir faire face à ce risque si ils n'augmentent pas leur prix. Donc, on a... tout le travail que fait le GIEC, c'est justement dans le dernier rapport qui est paru sur l'adaptation, c'est justement de montrer qu'il est plus intéressant économiquement au niveau du bien-être et au niveau même, si on parle même avant. De croissance, si on est toujours le nez sur la croissance, il est plus intéressant de faire ces efforts aujourd'hui et de commencer à réfléchir et à changer nos habitudes régulièrement, mais de manière ferme et décidée, que d'attendre que les catastrophes arrivent, parce qu'elles vont arriver de manière massive et de manière exponentielle. Donc on a tout intérêt à le faire aujourd'hui. Et il faut le faire rapidement, parce que le cap de 1,5 degré...
Il y a une chance sur deux, il paraît qu'on le franchisse
oui,
d'ici 5 ans.
Pour comprendre, il faut...
Mais parce qu'il y a 1,5 degré.
Oui, bon. Mais voilà. Mais,
si au lieu de faire 23, il fait 24
degrés. Il y a 20 000 ans, il faisait 4 degrés de moins, il y avait des mammouths, exactement là où on se parle. Donc 4 degrés, il y avait des mammouths, et puis le niveau de la mer était 120 mètres.
On allait à pied en Angleterre.
C'est ça, 4 degrés seulement. Ouais. Donc 1,5 degré, 2 degrés, vous imaginez les changements que ça peut représenter.
Et on parle, nous, de heureux que nous sommes de n'avoir des conséquences de cette sécheresse et de cette chaleur que sur nos habitats, parce qu'il y a des régions du monde où on est en train d'en mourir de la sécheresse. Et on n'en parle pas du tout, mais la Corne de l'Afrique subit actuellement une sécheresse qui fait qu'en fait, c'est une catastrophe humanitaire. Vous voyez ce reportage édifiant. Nous sommes en Éthiopie. En Éthiopie, ça fait quasiment un an et demi qu'il n'a pas plu. C'est l'une des pires sécheresses qui est connue, ce qui a jamais vécu cette région du monde. Et bien résultat, dans l'est de l'Éthiopie, et bien c'est une catastrophe humanitaire qui est en train de se préparer pour la population. Vous voyez ce sujet très dur de Carole Cuello.
Des chèvres, des vaches, un âne, mort de faim, mort de soif. Cet homme a perdu tout son troupeau. Que Dieu nous aide. Qu'il nous donne de la pluie. Ici, dans la région Somalie, en Éthiopie, pas une goutte de pluie depuis un an et demi.
J'ai vu des chameaux manger d'autres chameaux. J'avais jamais vu ça. Je ne pense pas que notre mode de vie survivra.
La survie des habitants de ce village dépend de leur bétail. Leurs bêtes, c'est leur nourriture, toutes leurs économies. Quand elles ne sont pas mortes, elles sont tellement maigres qu'elles sont invendables.
Cette sécheresse est très différente des précédentes. Nous n'avons jamais souffert de cette façon.
En Éthiopie, 6 millions de personnes sont menacées par la sécheresse et la famine. Les premières victimes, les enfants. Dans ce centre de distribution alimentaire, on commence par mesurer leur tour de bras pour évaluer l'état de dénutrition. Puis, des compléments alimentaires sont donnés aux mères.
Nous rencontrons certaines mères qui, parce qu'elles ne mangent pas suffisamment, ne produisent pas assez de lait pour leurs enfants.
Pour les cas critiques, du lait est injecté à l'aide de tubes directement dans l'estomac des petits. La situation se dégrade de jour en jour. L'Éthiopie est au bord de la crise humanitaire.
Émilie Torgeman, cela paraît d'autant plus injuste et révoltant qu'on a là une population qui n'est en rien responsable de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère, qui n'en a que les conséquences négatives.
Oui, alors ça c'est... C'est ce que rappelle, j'allais dire rituellement, ce que rappellent systématiquement les rapports du GIEC. En réalité, le réchauffement climatique est fondamentalement injuste, hein, on va le dire comme ça. Ce sont les pays du Sud qui en souffrent le plus, qui vont en souffrir les premiers. Et pas de chance, ce sont aussi souvent les pays les moins développés. Donc effectivement, ce ne sont pas eux qui ont injecté depuis le début de la révolution industrielle du CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ils ne sont pas responsables. Normalement, les pays, il doit y avoir un système de compensation. Les pays les plus riches doivent, c'est les accords des COP successives et notamment de la COP 21 à Paris, doivent financer, doivent aider ces pays-là, à l'adaptation pour le réchauffement climatique. C'est 100 milliards.
100 milliards.
Ouais, 100 milliards. Ça. Sauf que moi, je me souviens, dans les années 80, on aidait. Il y avait les chanteurs qui se mobilisaient pour l'Éthiopie, pour la famine déjà. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a moins de coopération, un monde plus replié. Et cette famine, franchement, on en parle très peu. Nous sommes tous concentrés sur la guerre en Ukraine. On a l'impression que ce sont des drames qu'on ne veut plus voir, qu'on ne veut pas voir, et que cette famine est invisible.
Oui, puis on s'habitue à tout, et puis après tout, les catastrophes, c'est toujours pour les pauvres, pour les pays du Sud.
Donc on dit que ça fait 40 ans que ça dure, ça n'y changera rien.
Il y a eu la catastrophe en 84 qui était encore pire, We Are the World.
Ouais, je me souviens, 80.
C'était bien ça, la chanson de Michael Jackson. Voilà, ils s'en sont sortis, finalement, ils n'ont pas migré, ils sont restés chez eux. C'est des gens qui sont habitués.
Sauf qu'à l'époque, c'était une guerre, et là, on voit. Le monsieur a dit que c'est un changement de notre mode de vie qui est à l'œuvre, qui se dessine dans le ciel.
Oui, mais encore une fois, on s'habitue en ne voyant pas que les conditions qui se trouvent là-bas. Alors certes, il n'y a pas de comparaison possible, mais quand on regarde les prévisions climatiques du GIEC, la Méditerranée, le Maghreb, les Balkans vont franchement connaître des situations qui seront en partie comparables, c'est-à-dire...
Des 50 degrés.
Des 50 degrés, et puis surtout des 50 degrés avec pas de pluie pendant 6 mois. C'est pas impossible du tout à l'horizon 2100.
Nicolas Châteauneuf, les Éthiopiens n'ont d'autre choix que de fuir leur terre devenue aride et hostile. C'est ce qu'on appelle les réfugiés climatiques.
Oui, comme les Maldiviens auront des gros soucis également quand leurs îles seront submergées par les eaux, tout comme certains pays qui sont déjà touchés par la guerre civile ou autre, je pense au Yémen ou à d'autres pays, ça va commencer à être compliqué. Mais vous savez, le climat a toujours été, déjà dans le passé, les variations climatiques ont toujours eu un impact sur la situation politique. Et par exemple, la guerre en Syrie, elle est aussi, alors il y a plein de facteurs, mais un des facteurs, c'est aussi la sécheresse qui avait fortement déstabilisé l'agriculture syrienne. Un des impacts du réchauffement, c'est aussi une instabilité et un monde plus instable, avec sans doute des mouvements de population difficilement contrôlables, des États qui vont avoir du mal à faire face. Les États du Sud également sont plus touchés parce qu'ils n'ont pas non plus parfois des infrastructures qui leur permettent d'y faire face. Alors il y a évidemment les Français d'aujourd'hui, ils vont légitimement, les jeunes Français peuvent se dire oui, mais nous ne sommes pas responsables de ce qui a été fait il y a 200 ans.
Pointer les responsabilités de chacun, c'est un peu tard.
La seule chose, c'est que, et j'entends souvent par exemple que la France est un très bon élève. Oui, c'est vrai, en termes de CO2 par habitant, c'est vrai que le Français moyen est un bon élève. Mais il faut prendre en compte à la fois nos émissions, les émissions induites également par la consommation des biens, des biens courants. Exactement. Oui. Par exemple, tout ce qui est produit en Chine. Et ce sont, c'est quelque part des émissions que nous délocalisons dans un autre pays, mais que nous consommons nous. Donc si on prend tout ça, finalement, on est à peu près dans la moyenne des pays industrialisés. Et donc, on a aussi notre part d'efforts à faire. Il faut que tout le monde fasse des efforts. On ne peut pas s'en dédouaner.
Et ce qui est inquiétant, bien sûr, c'est que ces épisodes climatiques extrêmes, on les constate, donc on l'a dit en France, on les constate en Somalie, on les constate également en Inde. En Inde, en ce moment même, il fait plus de 40 degrés. Et alors là, facteur aggravant, c'est l'humidité qui rend cette chaleur encore plus insupportable. Reportage à New Delhi d'Alexandre Allais.
Cet enfant marche sur une terre craquelée. C'est celle de la rivière de Yamuna, cours d'eau majeur en Inde, aujourd'hui asséché. Le pays est en proie à une importante vague de chaleur. Dans les rues de la capitale à New Delhi, les habitants suffoquent. Cet homme à l'ombre, un linge humide sur la tête.
Mon corps est rempli de sueur à cause de la chaleur. Nous restons à l'ombre, nous buvons beaucoup d'eau. C'est tout ce que nous pouvons faire.
Un temps sec et chaud qui a provoqué l'incendie de cette gigantesque décharge sauvage. Aux portes de New Delhi, depuis 4 jours, ces déchets brûlent. Au pied de la décharge, un bidonville. Les premières victimes de la chaleur, ces habitants les plus pauvres.
À cause de l'incendie dans cette décharge, nos fenêtres ont fondu. Et vous savez qu'il y a beaucoup de polluants qui entrent dans les salles de classe où les enfants ne peuvent pas s'asseoir facilement. Ce n'est pas du tout sûr pour eux.
Émilie Torjman, ce qui est affolant, c'est qu'on voit que l'urbanisation est un facteur aggravant au malheur de ces populations qui subissent le réchauffement climatique.
Alors oui, à New Delhi particulièrement, c'est catastrophique puisque là, c'était évoqué, en fait, la chaleur ajoute de la pollution à la pollution. À Delhi, les écoliers n'ont pas été à l'école pendant des mois parce que les épisodes de pollution étaient trop importants.
C'est pas à cause du Covid, c'est à cause de l'air irrespirable.
À cause de l'air irrespirable. Là, on a vu donc la décharge qui prend feu, donc ça rajoute de la pollution à la pollution. Et l'autre chose, c'est il y a une fracture, on en parlait tout à l'heure, l'injustice est énorme. Une partie de la population travaille dehors, donc subit cette chaleur, n'a strictement aucun moyen d'arriver dans des aires un peu climatisées.
Ils disent que ce sont les riches qui sont climatisés.
Nous, les riches qui sont climatisés, les gens qui travaillent dehors et qui n'ont pas d'autre choix que de travailler parce qu'il n'y a pas de couverture sociale, parce que c'est un secteur informel, et ben, ils vont continuer à travailler dehors. Et là, il y a vraisemblablement un nombre de morts important. En ce moment, il fait 40 degrés à Delhi. La semaine dernière, il en faisait 50. Disons qu'on est sur une petite accalmie de ce temps très chaud. Donc oui, l'Inde et le Pakistan, le pays voisin, sont en train de souffrir énormément de cette
chaleur. En sachant que traditionnellement, le mois de mai est le mois le plus chaud de l'année.
Alors, on annonce 44, 45 degrés la semaine prochaine. C'est quoi, Nicolas Châteauneuf ? On a l'impression que ce sont ces dômes de chaleur. Comme... Oui. C'est ce qu'on avait vu à l'Ouest Canada, c'est le même phénomène ?
Oui, c'est ça. C'est une situation de blocage météorologique avec des hautes pressions en fait, qui vont plaquer, on va dire, l'air chaud. Et il y a un phénomène d'emballement, tout simplement, avec cet air surchauffé. Et donc, on peut atteindre des températures assez importantes. D'autant plus en Inde, où vous avez l'Himalaya au nord et un bassin de population absolument phénoménal. Hein. L'Inde va être le pays le plus peuplé va dépasser la Chine en termes de population, 1,4 milliard dans les 10
ans. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Pourquoi dit-on que la chaleur, elle est encore plus difficile à vivre en Inde? Parce que 48 degrés, des endroits de la Terre où il fait plus chaud et on y vit. En quoi l'humidité est un facteur aggravant?
Mais parce qu'en fait, l'humidité entrave le phénomène de refroidissement naturel de votre corps, qui est la transpiration. Vous transpirez énormément, donc vous perdez beaucoup d'eau pour arriver au même résultat qu'avec une chaleur sèche.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas éliminer la chaleur par la transpiration
Votre système de régulation de température est moins efficace.
Voilà. Ça veut dire qu'il y a des endroits de la planète qui vont devenir mortels, comme sur la planète Mars?
Il y a des endroits de la planète qui sont déjà mortels, mais il y a des endroits de la planète qui vont devenir beaucoup moins hospitaliers et qui seront encore plus difficiles à vivre, bien sûr.
Oui. Là, il y a une très récente étude du Lancet sur cette question qui estime qu'à 25 degrés température humide, alors c'est TW, j'imagine que c'est wet pour humide, le corps humain n'est plus capable de gérer cette...
Attendez, 25 degrés, c'est...
C'est un indicateur, 25 degrés. Oui. En ce moment, on doit être à 19 en Inde. En fait, c'est pas le degré Celsius.
C'est
le degré TW.
D'accord. Donc, il y a un moment quand on cumule chaleur et humidité.
Le corps ne survit pas.
En fait, quand vous êtes à 100% d'humidité, même à 80%, vous ne pouvez plus suer. C'est le principe des vases communicants. Mmh. Parce qu'il n'y a plus de place dans l'air pour accueillir la vapeur d'eau que vous émettez par la
suite. Donc le corps ne peut plus se refroidir parce que l'acidation permet de refroidir le corps.
50 degrés,
donc,
je suis à la
qu'est-ce qu'ils vont faire les Indiens, le 1,4 milliard de population, ils vont fuir dans un. Ils vont fuir dans des régions plus tempérées, ils vont aller envahir la Russie.
Non, ils vont avant tout fuir chez eux dans leur propre pays.
Mais les migrations sont internes, en fait.
Oui, migrations internes. Enfin, l'essentiel des migrations se font à l'intérieur des pays, là où les gens culturellement sont, qui seront correctement accueillis, pas trop dépaysés. Mais la chaleur, c'est terrible. Moi, je me souviens d'un sujet que j'avais fait au Yémen. Il faisait plus de 50 degrés, mais la chaleur était sèche, était parfaitement acceptable, parfaitement difficile. Un autre sujet que j'avais fait en forêt tropicale, où il faisait, 25 degrés, c'était insupportable.
Pour avoir tourné dans la forêt de Guyane, je peux vous assurer que c'est insupportable.
Insupportable.
Oui, oui, non, c'est vrai que c'est
parce que la chaleur sèche, je ne sais plus qui me disait, à Abu Dhabi, il fait 78 degrés, mais comme c'est très sec, on
sue, en fait, le corps peut se rafraîchir.
Et c'est supportable, finalement. Voilà. Mieux vaut un 80 degrés sec qu'un 60 sec qu'un 40 humide.
Ah oui, ouais. Ça, c'est sûr et certain.
Oui, 80, j'y vais un peu fort.
Et puis en plus, en Inde, vous avez vraiment ce problème de pollution qui est quand même massif.
Donc, la respiration difficile.
En France, quand on parle de pic de pollution, on estime qu'il y a 48 000 morts par an à cause de la pollution, etc. Mais en Inde, avec un bassin de population de 1 milliard, de plus d'un milliard de population, avec des températures aussi extrêmes, etc., je ne suis pas sûr qu'ils aient des statistiques fiables, mais ça doit être phénoménal.
Mais la population donc, va en souffrir, et donc on va avoir des baisses de natalité, des baisses de population, tout simplement parce que la Terre n'est plus fertile, et pour tous les vivants, j'allais dire.
Les gens seront moins incités. Enfin, ça crée une angoisse terrible. Pourquoi faire des enfants si demain on sait qu'ils vont vivre dans des villes où on ne pourra même pas respirer? Oui, c'est pas impossible. Il y aura un impact. Il y aura même un impact physiologique. On sait que des corps qui sont soumis à des stress physiologiques importants, de toute façon, investissent beaucoup moins sur la reproduction.
Toute la zone des animaux. Toute la zone Inde-Bangladesh est une zone qui est éminemment sensible. Parce qu'en fait, vous avez le Bangladesh qui est soumis à la montée, enfin qui est très sensible à la montée des eaux, puisque c'est une zone de delta, et donc qui va subir de plus en plus des inondations assez importantes, avec aussi des changements de régime de précipitation. Et puis vous avez l'Inde, dont l'essentiel de la biodiversité est déjà accaparé pour nourrir la population qui augmente de manière très importante, avec des températures qui augmentent également. Donc, pour moi, ces deux pays-là, en tout cas, c'est toute la zone Inde-Pakistan, c'est une zone qui est éminemment sensible dans les 30 prochaines années par rapport au réchauffement climatique.
Et je suis désolé, mais il n'y a pas de bonne nouvelle en matière de dérèglement climatique, surtout quand on regarde ce qui nous attend. C'est un rapport de l'ONU, à nouveau, qui vient nous alerter sur les risques de catastrophes à venir, températures extrêmes, sécheresses, inondations. Néanmoins, l'ONU, pour essayer de nous laisser un peu d'espoir, c'est comme dans la boîte de Pandore, l'espoir.
Il y a de l'espoir.
Il nous dit, on peut néanmoins, il n'y a pas de fatalité à cette spirale que l'ONU appelle d'autodestruction de la planète, c'est dire si l'enjeu est important. Sujet de Gian Benzina et Nicolas Auer.
Notre planète, prise dans une spirale de catastrophes climatiques, dont le rythme s'accélère inexorablement. Rien qu'en ce début d'année, dans le Colorado, d'importants incendies causés par la sécheresse. La neige avait éteint les flammes, une situation inhabituelle en hiver. Pour les Nations Unies, la Terre est engagée dans une spirale d'autodestruction.
Le monde est frappé par un nombre croissant de catastrophes et elles sont causées par le réchauffement climatique.
Depuis 20 ans, l'ONU dénombre 350 à 500 catastrophes chaque année pour un coût estimé à 170 milliards de dollars par an. En 2021, aux États-Unis, la tempête Ida est la plus coûteuse, 65 milliards de dollars de dégâts, 44 victimes. Autre catastrophe, les inondations en Allemagne et en Belgique, 38 milliards d'euros, maisons et rues dévastées, 150 morts. En Colombie-Britannique, dôme de chaleur jamais vu, jusqu'à 49 degrés. Pour l'ONU, il est encore temps de pouvoir changer les politiques publiques. Sinon, l'organisme estime qu'il y aura au moins une catastrophe par jour dans le monde si rien n'est fait.
Nicolas Châteauneuf, vous disiez pas de fatalité. N'empêche, on ne sait pas par quelle boule prendre. Et puis on se dit, si moi je fais les efforts, de toute façon, mon voisin n'en fera pas.
C'est ça. C'est un peu tout la difficulté du travail actuellement autour de des COP, c'est-à-dire autour de l'ONU et autour de cette quelque part de cette communauté mondiale qui doit absolument s'y mettre, qui est basée sur le volontariat parce qu'on peut pas forcer les États à changer leur politique. Mais mon Dieu, que c'est lent. Et c'est terrible parce que pour moi, pour suivre ça depuis quelques années, depuis 15 ans, il y a des progrès. Finalement, on voit aussi que les citoyens également se saisissent de ça.
La jeunesse.
Voilà. Mais c'est évident que même s'il y a des grandes initiatives citoyennes, il faut qu'il y ait une coordination des États. Il faut absolument que chaque État s'y mette. Pour l'instant, le compte n'y est pas. On est plus vers une trajectoire de 3-4 degrés, alors qu'il faut vraiment limiter le réchauffement à 1,5 degré. Au-delà de 2 degrés, on passe dans un autre monde.
Eh bien voilà, c'est sur cet appel que se termine cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé à cette Info C'est Clair. Disponible gratuitement, je rappelle, en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes et sur le site francetv.fr, bien sûr. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée, à demain.